invité de France Inter jusqu'à 9h, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Monsieur le président Schrammeck, bonjour.
Bonjour.
Olivier Schrammeck, commençons par une question d'actualité. Très forte tension dans les rédactions de France Télévisions à propos de coupes budgétaires censées toucher les magazines d'information, de reportage et d'investigation. De lourdes suppressions de postes étaient annoncées. Il semblerait que la direction ait reculé. Alors, question, les contraintes budgétaires s'appliquent à tous, évidemment, mais les faire porter essentiellement sur l'info et sur ces formes-là de journalisme, n'est-ce pas un contresens, voire une erreur ?
Tout d'abord, principe essentiel, je n'ai pas à me substituer aux dirigeants d'entreprises, fussent-elles les entreprises publiques de communication audiovisuelle. Ensuite, bien entendu, je pense que personne ne peut échapper aux contraintes du temps qui sont des contraintes financières. Les choix sont essentiels. Il y a, dans mon esprit, et je pense dans celui du Conseil, un principe, c'est que l'information et sa forme la plus acérée, l'investigation, sont au cœur de la mission du service public. Il y a d'autres objectifs qui sont tout à fait essentiels.
Mais on parle de cela.
Mais celui-ci en est un et assurément l'un des plus importants.
Est-ce qu'on peut dire que le reportage de qualité et l'investigation sont aujourd'hui une mission du service public de l'audiovisuel ? Je souligne le terme.
Assurément. Le service public de l'audiovisuel a notamment pour mission d'accompagner les citoyens dans leurs tâches d'information et de réflexion sur les problèmes d'actualité. Il a pour fonction de les préserver de la pression des groupes, qu'ils soient politiques ou économiques. Et un des moyens de le faire, c'est de jeter un regard cru, mais indépendant, sur un certain nombre de phénomènes de société. Ensuite, ces reportages peuvent bien entendu être soumis à la critique, mais le déclenchement même d'une problématique sur un problème dont l'opinion publique a besoin de prendre conscience est une mission essentielle.
Voilà donc pour le principe et la mission. Est-ce qu'il faut dès lors sanctuariser les budgets pour cette forme précise de journalisme ?
Je n'aime pas beaucoup le terme sanctuarisé qui n'appartient pas à mon vocabulaire. Je pense qu'il y a des priorités et que l'investigation est au premier rang de ces priorités.
Dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes, le président de la République a annoncé que le CSA devrait voir ses prérogatives élargies au contenu numérique. C'est une bonne chose pour vous ?
C'est une chose nécessaire et par conséquent excellente.
Comment vous allez faire ?
D'abord,
avec vos petits bras du CSA.
D'abord, les propos du président de la République sont tout à fait essentiels, mais ils nécessitent une mise en œuvre. Peut-être le président de la République sera-t-il lui-même en situation d'avoir à préciser ses préconisations, qui sont des directions très nettes. Et puis, bien entendu, ce sera au Parlement de définir les conditions de toute nature, juridiques, techniques, financières, humaines, dans lesquelles le CSA aura à accomplir sa mission.
Mais est-ce que c'est même possible d'accomplir cette mission aujourd'hui, Olivier Schrammeck ?
Mais aujourd'hui, l'expérience nous montre que le CSA intervient déjà dans beaucoup de domaines de diffusion par Internet. Le principe...
Lesquels ?
Eh bien, par exemple, les web radios, les web télévisions, les SMAD, les émissions dites over the top, c'est-à-dire les diffusions directes en ligne. Et puis, par ailleurs, je vous rappelle que la loi à venir sera fondée sur une évolution du droit européen, une directive sur les services de médias audiovisuels, auquel nous, Français, nous avons beaucoup travaillé. Le CSA a été, en quelque sorte, le membre fondateur de cette organisation.
Comment vous interdisez le porno, monsieur le Président ?
Mais il y a différentes formes d'interdiction du porno, comme vous dites. La première, c'est le code pénal. Il y a un article spécifique du code pénal qui le réprime. Le problème, c'est que le juge pénal,
il intervient selon... Enfin, cet article ne s'applique pas dans nos smartphones.
Oui, non. Il intervient
c'est
selon...
C'est ça la question, quand même.
les interventions directes du Conseil supérieur de l'audiovisuel, puisque vous m'invitez à vous répondre directement, se font selon, d'une part, des méthodes que nous pratiquons déjà, c'est-à-dire des méthodes d'avertissement qui peuvent se prolonger par des sanctions. Elles se matérialisent par des pratiques d'information, de signalétique, de labellisation. Et de manière générale, depuis plusieurs années, nous avons développé ce que nous appelons le droit souple, c'est-à-dire une façon de pratiquer avec nos interlocuteurs un dialogue interactif pour s'adapter à leur situation et pour développer des démarches auxquelles ils sont susceptibles d'adhérer.
Mais donc c'est pas possible de contrôler le porno, si je vous comprends bien. Donc c'est pas possible de contrôler le porno.
Mais pas du tout. Je peux vous citer dans les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel plusieurs décisions qui ont effectivement condamné des éditeurs pour des émissions pornographiques.
Mais sur nos téléphones portables et nos tablettes, comment on fait ? Puisque c'est comme ça aussi que se consomment aujourd'hui les images, la télévision, et donc éventuellement la violence, et donc éventuellement les images dégradantes, oui, et je peux multiplier à l'infini.
Mais Nicolas Demorand, vous me parlez de techniques et de moyens de diffusion.
Bah, c'est important.
Je vous réponds que peu importe le moyen de diffusion, ce qui importe, c'est le contenu et la manière dont le CSA l'apprécie.
Mais vous avez le pouvoir ou pas ? Je n'y crois
pas.
Quand vous êtes face à Netflix, quand vous êtes face à Apple, quand vous êtes face à YouTube, quand vous êtes face à Google, quel est le pouvoir du CSA aujourd'hui et qu'est-ce que ces entreprises en ont à faire de la vie de la France et de vos sages ?
Si j'ose dire, c'est un problème de concordance des temps. Aujourd'hui, nous n'avons pas le pouvoir, nous l'exerçons uniquement à l'égard d'un certain nombre d'opérateurs que l'on qualifie parfois à tort d'opérateurs traditionnels, l'initiative du président de la République tend précisément à faire en sorte que notre rôle s'étende à ceux qu'on appelle les acteurs numériques.
Oui.
Donc,
j'ai compris les attendus. Bien. Mais ensuite, comment vous allez faire? C'est quand même l'énorme et massive question du 21e siècle.
Je vous expose que nous avons mise en place un certain nombre de méthodes qui peuvent servir de référence, labellisation, nomenclature, incitation sur la base du donnant-donnant, ce qu'on appelle en termes un peu techniques l'autorégulation qui est accompagnée par nous, la co-régulation et ce qu'on pourrait appeler la régulation participative, qui se pratique d'ores et déjà beaucoup et de plus en plus. À savoir que le CSA n'est pas Big Brother qui observe à tout instant.
Ni même Little, ni même Little, monsieur le président Schrammeck.
Dès lors qu'il est fraternel, je ne vais pas discuter avec vous de la dimension.
Mais alors, je voudrais.
Oui.
Allez-y, je vous laisse finir votre phrase et ensuite on sort du porno.
Bon. Ce que nous souhaitons, c'est que le législateur nous fixe les règles, les conditions et les méthodes dans lesquelles nous aurons à intervenir. N'oubliez jamais que nous sommes les serviteurs de la loi. Nous intervenons dans ce cadre. Et il est clair qu'il faudra une modification profonde, substantielle de la loi, encore une fois assise sur l'évolution du droit européen, pour ouvrir ce champ de contrôle. La seule chose sur laquelle j'insistais, c'est que sans l'apport, l'appui des internautes, des citoyens eux-mêmes, le CSA ne pourra effectivement pas de lui-même jouer tout son rôle.
Donc à vous entendre, il faut bien, Olivier Schrammeck, réécrire de A à Z la loi audiovisuelle rédigée par des brontosaures de l'âge paléolithique, c'est-à-dire en 1986, quand le monde n'avait rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui.
Certes, mais cette loi de 1986 aura été modifiée pas moins de 83 fois depuis qu'elle a été votée, et lors de la dernière législature, cela vous surprendra peut-être, 14 fois, sans avoir changé quoi que ce soit au fond du problème, ce dont nous débattons aujourd'hui. On ne pourra pas changer la loi d'un coup de baguette. À mon avis, il faudra changer les dispositions les plus substantielles de la loi, en l'ouvrant à ces champs nouveaux dont a parlé le président de la République, et puis on se donnera un peu plus de temps pour recodifier la loi et lui redonner une apparence cohérente qu'elle a perdue au fil des ans.
Vous avez, Olivier Schramek, modifié, réformé les règles du temps de parole politique dans les médias audiovisuels. Un tiers, si j'ai bien compris, un tiers pour l'exécutif, président, gouvernement, deux tiers pour tout le reste, c'est-à-dire les oppositions, les groupes parlementaires, donc y compris la majorité.
Alors, la règle du tiers, c'est une règle traditionnelle dans l'audiovisuel français qui remonte aux années 60. Mmh. Il n'y a rien de changé à cet égard. Ce qui est changé, c'est que au lieu de calculer des pourcentages globaux entre la majorité et l'opposition, alors que cela vous a certainement pas échappé...
Il n'y a plus d'opposition
plan... Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais il y a des oppositions et une majorité, que nous ne sommes plus dans le système de l'alternance où dominent des forces politiques traditionnelles, il fallait trouver un autre système, et ce système, c'est celui qui a été pratiqué lors des campagnes électorales qui n'ont donné lieu à aucune protestation sur le fond des formations politiques, ni des hommes politiques ou femmes politiques importants, c'est le principe de l'équité. C'est-à-dire que nous allons nous fonder sur les résultats électoraux, l'importance des élus, des groupes, les sondages d'opinion, l'animation du débat politique. Et nous allons le faire plus simplement. C'est-à-dire que nous allons le faire selon un rythme trimestriel, en agglomérant l'ensemble des émissions, en ne prenant en compte que les prises de parole des intéressés et non pas les commentaires, en ménageant la possibilité de circonstances exceptionnelles.
Mais moi juste ma question, parce que le sujet technique, il est important, puisque à travers ces dispositions, c'est aussi une part importante de la vie démocratique de la France qui se joue à l'antenne, on va dire, à l'antenne des radios et à l'antenne des télévisions. Est-ce que vous comptez La République En Marche dans le tiers de l'exécutif ou pas, le groupe parlementaire ?
Non ? Il y a, d'une part, le pouvoir exécutif, le président de la République, lorsqu'il intervient dans le débat politique national, le cas échéant, si c'est la pratique, ses collaborateurs et le gouvernement, et cela, ça vaut, quelles que soient les étiquettes politiques.
D'accord, donc l'exécutif.
Pour le reste, la répartition se fait entre les formations politiques qui représentent les grandes orientations nationales du pays.
Donc c'est dans la République En Marche aussi.
Et la République En Marche en fait partie.
Donc c'est une loi de tiers, un tiers. C'est deux tiers pour l'exécutif et la majorité, mais un tiers pour l'opposition.
C'était l'expression qu'on employait, monsieur Demorand, justement antérieurement, oui. Depuis les années 60.
Oui, mais vous avez changé les mots et les modes de comptage, mais au fond, c'est le même, de tiers, un tiers.
Nous avons changé complètement la méthode, puis c'est une méthode d'équité.
On en reste là pour l'instant. On vous retrouve dans quelques instants avec Léa Salamé, juste après la revue de presse de France Inter avec Claude Ascolovitch.